Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud traité Baba Batra, page 157, Daf Kuf Nun Zayin. Bonne écoute et bon limoud.
Les Chachamim ont institué que lorsque le malade dicte son testament un jour de semaine, l'acte d'acquisition n'est pas nécessaire, alors que finalement il pourrait quand même le faire. Vekal Vachomer le Shabbat, à plus forte raison que les Chachamim auront institué que l'acte d'acquisition ne sera pas nécessaire lorsque le malade dicte son testament le Shabbat, lorsqu'il ne peut justement pas faire l'acte d'acquisition. Kayot Sebo, il en est de même concernant une autre halakha, Zachin Legadol. Il est possible de faire un acte d'acquisition à l'intention d'un adulte, même s'il ne l'a pas nommé émissaire, Ve'en Zachin Lekatan, mais il est impossible de faire un acte d'acquisition à l'intention d'un mineur, parce qu'il ne peut pas le faire lui-même. D'ivrei Rabbi Eliezer, ce sont les paroles de Rabbi Eliezer. Il suit donc le principe que nous avons énoncé plus haut, selon lequel une action n'est pas indispensable tant qu'elle est possible. Donc là, puisque le mineur ne peut pas lui-même faire cet acte d'acquisition, il est impossible de faire cet acte d'acquisition à son intention. Rabbi Yoshua Omer, Bekadol Amrou, les Chachamim ont dit qu'il est possible de faire un acte d'acquisition à l'intention d'un adulte, alors qu'il peut le faire lui-même. Kal Vachomer le Katan, à plus forte raison que les Chachamim auront institué qu'il est possible de faire un acte d'acquisition à l'intention d'un mineur lorsqu'il ne peut pas lui-même faire cet acte d'acquisition. Donc, selon l'opinion de Rabbi Meir, l'opinion de Rabbi Eliezer est contraire à celle que nous avons enseignée dans la Mishnah. Selon Rabbi Meir, l'opinion de Rabbi Eliezer est que l'acte d'acquisition n'est pas nécessaire seulement si le malade dicte son testament un jour de semaine, et il est possible de faire un acte d'acquisition uniquement à l'intention d'un adulte. Rabbi Yehuda Omer, tandis que Rabbi Yehuda dit, Rabbi Eliezer Omer, Beshabbat Dvarav Kayamim, si le malade dicte son testament le jour du Shabbat où il est impossible de faire l'acte d'acquisition, ses paroles sont valables. L'acte d'acquisition n'est pas nécessaire, parce qu'il ne peut pas écrire le testament, aval lobechol, mais non pas un jour de semaine. Donc s'il dicte son testament un jour de semaine, ses paroles ne seront pas valables. L'acte d'acquisition sera obligatoire, parce que justement, il est possible de le faire. Rabbi Yoshua Omer, Beshabbat Amrou, les Chachamim ont institué que l'acte d'acquisition n'est pas nécessaire le jour du Shabbat, lorsque le malade dicte son testament, Kal Vachomer Bechol, à plus forte raison que les Chachamim auront institué que l'acte d'acquisition ne sera pas nécessaire lorsque le malade dicte son testament un jour de semaine, lorsqu'il est possible justement de faire l'acte d'acquisition. Autrement dit, si les Chachamim ont rendu l'acte d'acquisition facultatif le jour du Shabbat, alors qu'il est impossible de le faire, à plus forte raison qu'un jour de semaine, lorsqu'il est possible de le faire, que celui-ci sera facultatif. Kayot Sebo, il en est de même concernant une autre halakha. Il y a donc là aussi une discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Zachin le Katan, il est possible de faire un acte d'acquisition à l'intention d'un mineur, parce qu'il ne peut pas le faire lui-même, ve'en Zachin le Gadol, mais il est impossible de faire un acte d'acquisition à l'intention d'un adulte, sans avoir été nommé émissaire par lui, parce qu'il peut le faire lui-même. D'ivrei Rabbi Eliezer, ce sont les paroles de Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua Omer, les Katan Amrou, les Chachamim ont dit qu'il est possible de faire un acte d'acquisition à l'intention d'un mineur, alors qu'il ne peut pas le faire lui-même. Kal Vachomer le Gadol, à plus forte raison que les Chachamim auront institué qu'il est possible de faire un acte d'acquisition à l'intention d'un adulte, alors qu'il peut le faire lui-même. Parce que si déjà l'acte d'acquisition ne doit pas être fait obligatoirement par le bénéficiaire lorsqu'il ne peut pas le faire lui-même, à plus forte raison que l'acte d'acquisition ne devra pas être fait obligatoirement par le bénéficiaire lorsqu'il peut le faire lui-même. Nous avons fini ici le shiur de Baba Batra Daf Kuf Nun Vav. Nous commençons le shiur de Baba Batra Daf Kuf Nun Zayin à la Mishnah vers le haut de la page. Après avoir traité jusqu'à présent les lois concernant les testaments, jusqu'à la fin du Perek, nous verrons maintenant différents litiges qui opposent les héritiers et les créanciers. En nouvelle Mishnah, Nafal habayit alav ve'alaviv, si une maison s'est écroulée sur lui, donc sur une personne et sur son père, ou alav ve'almorishav, ou bien sur lui et sur une autre personne qui est susceptible de lui transmettre un héritage et dont il est l'héritier le plus proche, ve'haïta alav k'tuva tisha ou ba'alchov, il avait sur lui l'obligation de payer la k'tuva de sa femme et des créanciers. Bon, la question se pose, est-ce qu'il a hérité des biens de son père et donc les créanciers pourront les saisir ou non? En Yorshe Ha'av Omrim, les héritiers du père disent Haben Met Rishon, le fils est décédé en premier, Ve'acharkach Met Ha'av, et c'est seulement après que le père est décédé, finalement le fils n'a rien hérité, les créanciers ne pourront pas saisir ses biens. Ubale Ha'achov Omrim, et les créanciers disent Ha'av Met Rishon, le père est décédé en premier, Ve'acharkach Met Haben, et après le fils est décédé. Il a donc hérité ses biens, et nous pouvons les saisir. En Bet Shammai Omrim, Yachloku, les héritiers et les créanciers partageront ses biens à cause de ce doute. Et cela parce que, comme la Gemara l'explique dans Evamot, Daf Lamedchet, selon Bet Shammai, une reconnaissance de dette qui est destinée à être encaissée est considérée comme étant déjà encaissée. Par conséquent, s'il est vrai que le père est décédé en premier, c'est les créanciers qui ont pris possession des biens, même avant les héritiers. Finalement donc, le doute mais à égalité les héritiers et les créanciers, et c'est pour cela qu'ils partageront. Ou Bet Hillel Omrim, Nechassim Becheskatan. Les biens resteront en possession de ceux qui les possèdent, c'est-à-dire en possession des héritiers. Parce que selon Bet Hillel, même si c'est le père qui est décédé en premier, et donc le fils a hérité les biens, les héritiers ont quand même un droit d'héritage sur ces biens, parce qu'ils peuvent les hériter directement du fils. Alors que le créancier sous en doute s'ils ont un droit de saisie sur ses biens, parce qu'ils ne savent pas si c'est le père qui est décédé en premier ou si c'est le fils qui est décédé en premier, parce que selon Bet Hillel, une reconnaissance de dette qui est destinée à être encaissée n'est pas considérée comme étant déjà remboursée. Finalement, les créanciers doivent réclamer les biens chez les héritiers. Ce sera donc à eux de prouver que c'est le père qui est décédé en premier pour pouvoir saisir ses biens. Nana Hatam, il a été enseigné dans une Mishnah plus loin, Daf Kufayin He. Hamalvé et Travero Beshtar, celui qui prête de l'argent à son prochain avec un document, c'est-à-dire le débiteur a écrit une reconnaissance de dette, Gové Minchassim Meshubadim, il pourra saisir des biens assujettis, c'est-à-dire des biens qui ont été vendus à d'autres personnes après qu'il a contracté ce prêt. Aliédé Edim, s'il a prêté cet argent uniquement devant des témoins sans document, Gové Minchassim Benechorin, il ne pourra saisir que des biens libres, c'est-à-dire qui n'ont pas été vendus. Et cela, parce que les acheteurs n'ont aucune manière de savoir que le vendeur était endetté. En effet, ce n'est que lorsque la reconnaissance de dette a été écrite que le bruit court que le vendeur est endetté. Et ce n'est que dans cette situation que nous pouvons dire que les acheteurs auraient dû faire attention de laisser au vendeur suffisamment de terrain pour pouvoir payer ses dettes. Et c'est pour cela donc que le créancier peut saisir les terrains qui ont été vendus si au moment prévu pour le remboursement de la dette, le vendeur ne possède pas suffisamment de terrain pour rembourser ses dettes. Ben Shmuel. Shmuel s'est posé la question suivante. Deikne, si dans la reconnaissance de dette, le débiteur a engagé les terrains qu'il achètera dans le futur, Vekana, et il a effectivement acheté des terrains, après avoir contracté cette dette, Maou Kelela Alacha, est-ce que le créancier peut les saisir ou non? Alors, la Gemara précise, Aliba de Rabbi Meir, selon l'opinion de Rabbi Meir, d'Amar Adam Makne Davar Shelo Bala Olam, qui dit qu'une personne peut vendre un objet qui n'existe pas encore, ou bien qu'il ne possède pas encore, comme nous le voyons dans Kiddushin Daf Samer Bet, Loti Belach, tu n'as pas de question à te poser. De Vadai Kana, qu'il est évident que le créancier a acquis les droits de saisir ses terrains lorsque le débiteur les a achetés. Et là, plutôt, Kiti Velach, selon qui tu te poseras la question, Aliba de Rabbanan, c'est selon l'opinion de Chachamim, des Amré qui disent, En Adam Makne Dabar Shelo Bala Olam, qu'une personne ne peut pas vendre un objet qui n'existe pas encore, ou bien qu'il ne possède pas encore. Alors la question se pose, est-ce que les Chachamim ont renforcé le pouvoir du créancier pour lui permettre de saisir des terrains qui ont été achetés par la suite? Ils auraient institué cela pour ne pas que les portes se ferment devant les débiteurs, c'est-à-dire pour éviter que les créanciers ne veulent pas prêter de l'argent sous prétexte que le débiteur ne possède pas de garantie suffisante parce qu'il ne possède pas suffisamment de terrain, ou bien est-ce que les Chachamim n'ont pas renforcé le pouvoir du créancier? Bagma répond, Amar Rav Yosef, Tashma vient coûte une preuve d'une Mishnah dans Ktuvot Daf Kuf Yud. Il s'agit d'un cas d'une personne qui a emprunté de l'argent, puis par la suite il a acheté l'un des terrains de son créancier. Alors lorsque le créancier vient réclamer le remboursement de la dette, le débiteur lui dit, s'il est vrai que je te devais de l'argent, je n'aurais jamais dû accepter de me vendre ce terrain avant que je te rembourse ma dette. D'ailleurs, c'est cela l'opinion de Admon qui dispense le débiteur de rembourser cette dette. Vachachamim omrim, ze haya pikeach. Celui-ci, c'est-à-dire le créancier, était intelligent, chez Macharlo et Akarka, lorsqu'il lui a vendu ce terrain, mipne shuhu yachol le mashkenu alav, parce qu'ainsi, il pourra le saisir pour le remboursement de sa dette, alors qu'auparavant, le débiteur ne possédait pas de terrain. Nous pouvons voir donc de cette Mishnah que le débiteur a le pouvoir d'engager des terrains qu'il achètera par la suite, parce que sans cela, le créancier n'a aucune manière de saisir des terrains qu'il a achetés par la suite. L'agma répond à Marle Rava, Mineh Kamar, est-ce que tu parles de saisir des terrains qui se trouvent encore chez le débiteur? Mineh, lorsque le créancier vient encaisser sa dette chez le débiteur, Afilu Miglima de Atkatfe, il peut même saisir l'habit qui se trouve sur ses épaules. Il est donc évident qu'il pourra saisir des terrains qu'il a achetés par la suite. Autrement dit, lorsque le créancier vient encaisser sa dette chez le débiteur, ce n'est pas en vertu du fait qu'il a assujetti ses biens pour le remboursement de sa dette, mais plutôt parce qu'il s'est lui-même engagé à la rembourser. C'est pour cela qu'il pourra saisir même des biens qui n'ont pas été assujettis au paiement de cette dette, par exemple l'habit qui se trouve sur son épaule, ou bien même des terrains qu'il aurait achetés par la suite. Kikam Ivayalan, dans quel cas nous nous posons la question, Deikne, lorsque le débiteur a assujetti des biens qu'il achèterait par la suite, Kana ou Machar, puis il a acheté des terrains et les a vendus à d'autres personnes, ou bien Deikne, lorsqu'il a assujetti des biens qu'il achèterait par la suite, Kana veut aux riches, puis il a acheté des terrains et il les a transmis en héritage. Maï, quelle est la halakha? C'est-à-dire, dans ce cas, la question se pose, est-ce que le créancier peut saisir ses biens en vertu du fait que le débiteur a assujetti les biens qu'il achèterait par la suite, ou non? L'agma répond, Amar Avchana Tashma, viens écoute une preuve de notre Mishnah. Nafal Habait Alav Ve'alaviv, si une maison s'est écroulée sur lui et sur son père, ou bien Alav Ve'almorishav, ou bien sur lui et sur d'autres membres de sa famille qui sont susceptibles de lui transmettre un héritage et dont il est l'héritier le plus proche, Ve'haita Alav Ktuva Tisha, il avait sur lui l'obligation de payer la Ktuva de sa femme ou Baal Chov et des créanciers. Et la question se pose, est-ce que c'est le père qui est décédé en premier et le fils a donc hérité de sa fortune? Il a de quoi rembourser ses dettes? Ou bien est-ce que c'est le fils qui est décédé en premier? Il n'a donc rien hérité du tout et ses biens reviennent aux héritiers. Yorche Ha'av Omrim, les héritiers du père disent, Haben Medrishon, c'est le fils qui est décédé en premier, Vachakach Metav, et c'est après que le père est décédé. Par conséquent, les biens nous reviennent et on ne doit pas rembourser les dettes. Ou Baalei Chovot Omrim, et les créanciers disent, Ha'av Medrishon, c'est le père qui est décédé en premier, etc. C'est-à-dire, et puis, c'est le fils qui est décédé, et donc, il a hérité de quoi rembourser nos dettes. Nous avons vu qu'à ce sujet, il y a une discussion entre Beth Hillel et Beth Shammai. Veis al-Kadatar, et si tu pensais que Deikne, dans le cas où le débiteur a assujetti les biens qu'il achèterait dans le futur, Kana ou Machar, et puis il a acheté des biens et les a revendus, ou bien Deikne, lorsque le débiteur a assujetti les biens qu'il achèterait par la suite, Kana va aux riches, puis il a acheté des biens et il les a transmis en héritage, l'Omishtabed, ces biens ne sont pas assujettis et le créancier ne peut donc pas les saisir, Nehi namide av mitberesha, même s'il est vrai que le père était décédé en premier, Deiknehu, nous sommes en présence d'une situation où le débiteur a assujetti les biens qu'il achèterait par la suite, puis il a acheté des biens et les a transmis en héritage. Si c'est ainsi, les créanciers ne devraient pas pouvoir saisir ces biens, même si c'est le père qui est décédé en premier. L'agma répond, Amar lehu Rav Nachman. Rav Nachman leur a répondu, donc à Rav Chana, Zeira Chavrin Tirgema. Mon collègue Zeira, donc Rav Zeira, a interprété la Mishnah de la manière suivante. Mitzvah al hayetomim lifroa chovat avihen. Les orphelins ont une mitzvah de payer les dettes contractées par leur père. Par conséquent, même si le créancier ne peut pas saisir des biens qui ont été achetés par la suite et qui ont été revendus, il aura quand même le pouvoir de saisir des biens qui ont été achetés par la suite et qui ont été transmis en héritage. Et cela, même si au départ le débiteur n'avait pas assujetti les biens qu'il achèterait par la suite. Matkifla, Ravashi. Ravashi a objecté sur cette réponse. Milve alpehu. Si le débiteur ne peut pas assujettir des biens qu'il achèterait par la suite, il se trouve donc que par rapport à ces biens que le débiteur a achetés par la suite, cette dette est considérée comme étant une dette orale, sans document. ורבו שמואל דאמרי תרוויו, רבו שמואל דיז תולדו, מיל ועל פה אינו גובה לא מן היורשין ולא מן הלקוחות. Lorsqu'il s'agit d'une dette orale pour laquelle le débiteur n'a pas écrit de reconnaissance de dette, le créancier ne pourra saisir ni les biens qui se trouvent chez les héritiers, donc après le décès du débiteur, ni les biens qui se trouvent chez des acheteurs. Autrement dit, comme l'explique le Tosfot, cette mitzvah que les orphelins ont de payer les dettes qu'a contracté leur père, pour laquelle le tribunal interviendra et permettra au créancier de saisir les biens, n'existe que dans le cas d'une dette pour laquelle un document a été écrit. Mais lorsqu'il s'agit d'une dette orale, même si cette mitzvah existe toujours, cependant le tribunal n'interviendra pas en ce sens en permettant au créancier de saisir les biens. Donc, puisque dans le cas de notre Mishnah, il s'agit d'une dette orale, même s'il est vrai que les héritiers accompliront une mitzvah s'ils remboursent cette dette, cependant, personne ne peut les obliger à le faire. Le créancier ne peut donc rien réclamer.
Vous êtes en plein cours de Guémara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Nous tournons la page à Daf Kuf Nun Zayin Amud Bet. Rabashi continue, et là plutôt nous dirons, Hamane, l'auteur de notre Mishnah, Rabbi Meir Hi, c'est Rabbi Meir de Amar qui dit, Adam makne davar shelo balaolam, une personne peut vendre un objet qui n'existe pas dans ce monde, ou bien qui ne possède pas encore. Par conséquent, le débiteur a le pouvoir d'assujettir des biens qu'il ne possède pas encore, mais qu'il achètera dans le futur. Et c'est pour cela que, selon Rabbi Meir, le créancier peut réclamer ses biens si effectivement c'est vrai que le père est décédé en premier. Amar Rabbi Yaakov Minar Pekud Mishmei de Ravina Tashma. Viens, écoute une preuve d'une Mishnah dans Maseret Shvi'it Perek Yud Mishnahe. Shtarechov Hamukdamim. Des reconnaissances de dette qui ont été antédatées, psoulin, ne sont pas valables. Et cela parce que par le moyen de cette reconnaissance de dette, le créancier pourrait saisir des biens qui ont été vendus avant que cette dette n'ait été contractée. Behamurharin ksherin. Cependant, des reconnaissances de dette qui ont été postdatées sont valables. Et cela parce qu'il n'y a aucun risque. Au contraire, c'est le créancier qui a perdu dans l'affaire parce qu'il perd le droit de saisir des biens qui ont été vendus entre le moment où la dette a été contractée et la date écrite sur le document. Alors la Gemara demande, Ve'is al-kadatar de ikne, si tu penses que dans le cas où le débiteur a assujetti des biens qu'il achèterait par la suite, kana ou machar, puis il a acheté des terrains et les a vendus, ou bien de ikne, s'il a assujetti des biens qu'il achèterait par la suite, kana ve'o rish, puis il a acheté ses terrains et les a transmis en héritage, l'omishtabed, ses biens ne sont pas assujettis, le créancier ne peut pas le saisir. Meucharin, amaikcherin, pourquoi est-ce que les reconnaissances de dette qui ont été postdatées sont valables? Puisque finalement, par le moyen de cette reconnaissance de dette, le créancier aura le pouvoir de saisir des terrains qui ont été achetés après que cette dette a été contractée, avant que la reconnaissance de dette a été écrite. Alors que finalement, deiknehu, nous sommes en présence d'une situation d'un débiteur qui a assujetti ses biens qu'il achèterait par la suite, et comme nous l'avons dit, ses biens ne sont pas assujettis. Finalement donc, le créancier saisirait des biens justement. L'Agma répond, Hamane Rabbi Meiri, l'auteur de cette Mishnah est aussi Rabbi Meir de Amar Adam Makne Davar Shelo Balaolam, qui dit qu'une personne peut vendre des objets qui n'existent pas encore, ou bien qui ne possèdent pas encore. C'est pour cela que le débiteur a aussi le pouvoir d'assujettir des biens qu'il achèterait dans le futur. Amar Rav Mesharchia Mishme de Rava, Tashma, viens écoute une preuve d'une braïta qui explique une Mishnah enseignée dans Gittin Daf Memchet. Cette Mishnah de Masechet Gittin énumère un nombre de dettes pour lesquelles le créancier ne peut pas saisir des biens qui ont été vendus, notamment ces Shvar Karkaot, c'est-à-dire pour les dettes occasionnées par les améliorations apportées à un terrain. Alors la braïta dit, les Shvar Karkaot Ketsad, comment se présente le cas d'une dette occasionnée par l'amélioration d'un terrain? Alors, la Braïta explique, selon l'interprétation finale de la Gemara dans Bava Metzia Daf Yud Dalet, Hare Shemachar Karka la Chavero, voici qu'une personne a vendu un champ à son prochain avec garantie Veishbicha et il l'a amélioré. C'est-à-dire, il a investi dans ce terrain en engrais ou en clôture, etc. Ou Baba Al-Chov Vetarfa et le créancier de ce vendeur est venu et a saisi ce terrain. Il s'agit d'un cas où la somme qu'il lui devait était équivalente à la valeur de ce champ et à celle des améliorations apportées à ce terrain. Parce que sinon, il est évident que le créancier doit rembourser à l'acheteur la contre-valeur de ces améliorations. Or, puisqu'il s'agit d'une vente avec garantie, que chez Ugové, lorsque l'acheteur vient encaisser la contre-valeur de ce qu'il a perdu, Gové est à Keren Minchassin Meshoubadin, il peut encaisser le capital, c'est-à-dire la contre-valeur du champ tel qu'il l'a acheté à partir de biens assujettis, c'est-à-dire qui ont été vendus à d'autres personnes, Vet Ashvach Minchassin Benechorin. Mais s'il veut se faire rembourser les améliorations qu'il a portées à ce terrain, il ne pourra saisir que des biens libres, c'est-à-dire des biens qui n'ont pas été vendus. En fait, comme le précise le Tosfot, il s'agit d'un cas où, lorsque le créancier vient réclamer le remboursement de sa dette, le vendeur ne possédait pas de biens libres, parce que sinon, il n'a aucune raison de saisir des biens qui ont été vendus. Mais ce que la Braïta veut nous dire, c'est que l'acheteur ne pourra saisir que des biens libres que le vendeur achètera par la suite. La Gemara demande, Ve'is al-Kadatar, si tu penses que Deikne, si le débiteur a assujetti des biens qu'il achètera par la suite, Kana ou Machar, puis il a acheté des terrains et les a vendus, ou bien Deikne, s'il a assujetti des biens qu'il achètera par la suite, Kana ou Rish, et puis il a acheté des biens et les a transmis en héritage, l'omishtabet, ces biens ne sont pas assujettis, le créancier ne peut pas les saisir. Balchov Amay Gove Shivra, pourquoi est-ce que le créancier peut saisir les améliorations apportées au terrain, puisque ce sont des biens qui ont été acquis par la suite? C'est-à-dire, même si nous considérons que ces terrains appartiennent toujours au vendeur, et les améliorations apportées au terrain lui appartiennent aussi pour le paiement de ses dettes, mais ils sont quand même assujettis à l'acheteur qui a acheté ce terrain. Le créancier ne devrait donc pas pouvoir saisir ces améliorations qui ne sont apparues que par la suite. Agma répond, Hamane Rabbi Meirhi. L'auteur de cette braïta est aussi Rabbi Meir de Amar qui dit Adam Akne Davar Shelo Balaolam. Une personne peut vendre un objet qui n'existe pas encore ou qu'il ne possède pas encore. Et c'est pour cela donc que le débiteur a le pouvoir d'assujettir des biens qu'il achètera par la suite. Et selon lui, le créancier pourra même saisir les améliorations qu'a apporté l'acheteur. La Gemara dit Im Tim Tselomar, si tu veux me dire que Deikne, lorsque le débiteur assujettit des biens qu'il achètera par la suite, Kana ou Machar, et il a acheté et les a revendus, ou bien Deikne, s'il a assujetti des biens qu'il achèterait par la suite, Kana veut aux riches, et puis il a acheté des terrains et les a transmis en héritage, l'homme ishtabed, ces biens ne sont pas assujettis, le créancier ne peut pas les saisir, halom ishtabed, donc il n'y a pas de question à ce sujet. Ces biens ne sont pas assujettis, le créancier ne peut pas les saisir. Il n'y a donc aucune question à se poser à ce sujet.
Nous sommes Bava Batra, Daf Kuf Nun Zayin Amud Bet, à la 13e ligne du bas de la page. Nous avons vu jusqu'à présent la question que la Gemara s'était posée, à savoir, lorsque le débiteur engage les biens qu'il achètera dans le futur pour le paiement d'une dette, puis il a effectivement acheté des biens qu'il a revendus ou qu'il a transmis en héritage. Alors la question était, est-ce que ces biens sont assujettis? Le créancier peut les saisir ou non, puisque finalement, au moment où il les a engagés, il ne le possédait pas encore. Alors, la Gemara n'a pas répondu à cette question. Elle va cependant poser une seconde question. Alors, la Gemara a commencé par dire que si nous tranchons la première question en disant que ces biens ne sont pas assujettis parce que le débiteur ne les possédait pas encore lorsqu'il les a engagés, la question ne se pose pas. Im Tim Tselomar Mishtabed, mais si tu veux dire, c'est-à-dire si tu tranches cette première question en disant que ces biens sont assujettis et le créancier peut les saisir, la question suivante va se poser. Lava velava, si cette personne a emprunté une première fois, puis elle a emprunté une seconde fois, et les deux fois, elle a engagé les biens qu'elle achèterait dans le futur. Vechazar vekana, puis par la suite, ce débiteur a acheté des biens. Mahu, quelle est la halakha? Lekama mishtabed, est-ce que ces biens sont engagés vis-à-vis du premier créancier, parce que finalement, c'est vis-à-vis de lui qu'il s'est engagé en premier. Ole batra mishtabed, ou bien est-ce que nous disons que ces biens sont engagés vis-à-vis du dernier, donc du deuxième créancier, parce que nous dirons que cet engagement ne peut prendre effet que lorsqu'il aura effectivement acheté les biens. Entre-temps, il peut donc se raviser. Dans ce cas, nous pourrons considérer qu'il s'est ravisé, puisqu'il s'est engagé vis-à-vis d'une seconde personne, le second créancier. Agma répond à Marav Nachman, Hamilta Ibayalan, cette question, on se l'est posée, et on l'a envoyé en Eretz Israël, Veshalchum Etam, et les Chachamim ont renvoyé la réponse suivante d'Eretz Israël, en disant, Rishon Kana, c'est le premier qui a acquis les biens, autrement dit, c'est le premier créancier qui pourra les saisir en premier. Rav Huna Amar, tandis que Rav Huna dit, Yachloku, ils se partageront, donc les deux créanciers se partageront ces biens pour le paiement de leurs dettes. Et cela parce qu'il est vrai que cet engagement ne prend effet que lorsque le débiteur acquiert les biens en question. Cependant, le débiteur ne peut pas se raviser. Finalement, donc, cet engagement prendra effet en même temps vis-à-vis des deux créanciers. C'est pour cela qu'ils se partageront ces biens. Vechen Tane Rabba Baravuha. Rabba Baravuha a enseigné aussi la même chose dans une breita, Yachloku, que les deux créanciers se partageront. Amar Ravina, Mahadura Kama de Ravashi. Lorsque Ravashi a enseigné cette Masechet pour la première fois, Amar Lan, il nous a dit, Rishon Kana, c'est le premier créancier qui a acquis les biens. C'est donc le premier créancier qui peut les saisir. Mahadura Batra de Ravashi. Lorsque Ravashi a enseigné publiquement cette Masechet pour la deuxième fois, Amar Lan, il nous a dit, Yachloku, l'alakha est que les deux créanciers partageons ces biens. En effet, à l'époque, l'usage était d'enseigner publiquement les halakhot et la gemara 2 mois par an. Il s'agit des mois de Nissan et de Tishri. Tout le monde s'assemblait pour écouter les cours. Ravashi, qui a été Rosh Yeshiva pendant 60 ans, a donné ses cours justement pendant 60 ans. Au bout de 30 ans, il a terminé une première fois l'étude du chasse et il a entrepris une deuxième fois l'enseignement public du chasse qu'il a terminé au bout de 30 ans. Il a donc mérité d'enseigner 2 fois au public la totalité de la Gemara. Et justement, cela que Ravina nous parle d'une première fois et d'une seconde fois. Alors, la Gemara conclut, Ve'il Chetal, Alacha, et que dans ce cas, Yachloku, les deux créanciers partageront les biens. Alors, la Gemara demande, Metive, on a opposé à cette Alacha une Braïta que nous avons mentionnée plus haut. Cette Braïta explique une Mishnah qui est enseignée dans Masechet Gittin Daf Memchet, qui dit entre autres qu'un créancier ne pourra pas saisir des biens assujettis donc qui ont été vendus à d'autres personnes pour le paiement d'une dette occasionnée par l'amélioration d'un terrain. La Breta dit, Lishvar Karkaot Ketsad, comment se présente le cas d'une dette occasionnée par l'amélioration de terrain? La Breta répond, Hare Shemachar Sadel Chavero, voici qu'une personne a vendu un terrain à son prochain, Vehishbicha, et ce dernier l'a amélioré en investissant dans des engrais ou dans des clôtures. Ou Baba Al-Khov Vetarfa, et le créancier du vendeur est venu saisir ce terrain pour le paiement de sa dette. Puisqu'il s'agissait d'une vente avec garantie, l'acheteur peut retourner chez le vendeur, exiger le paiement du capital, donc de la contre-valeur du terrain, et aussi le remboursement des améliorations qu'il a apportées à ce terrain. En la Breta dit que chez Ugové, lorsque le débiteur, donc l'acheteur, vient encaisser ses dettes, Gové et Hakeren Minchassin Meshoubadin, il pourra encaisser le capital, donc la contre-valeur du terrain, tel qu'il l'a acheté à partir de biens assujettis qui ont été vendus à d'autres personnes, Vet Ashvach Minchassin Benechorin. Et pour se faire rembourser ce qu'il a investi pour améliorer le terrain, il ne pourra saisir que des biens libres, c'est-à-dire qui n'ont pas été vendus. C'est-à-dire, comme nous l'avons expliqué plus haut, des biens que le vendeur aura achetés après le remboursement de la première dette. Vimita, et s'il est vrai que dans le cas de deux créanciers, ils se partagent les biens que le débiteur a achetés par la suite, l'acheteur ne devrait réclamer que la moitié de la contre-valeur des améliorations qu'il a apportées au terrain. Et cela parce que même si nous admettons que le créancier peut saisir même les améliorations qui ont été apportées au terrain, après qu'il a prêté cet argent. Et cela en vertu du principe selon lequel même les biens que le débiteur a acquis par la suite sont engagés pour le paiement de cette dette. Il n'empêche que ces mêmes biens sont engagés vis-à-vis de l'acheteur dont l'achat du terrain a été garanti par le vendeur qui est aussi débiteur. Donc, lorsque nous considérons les améliorations apportées au terrain comme des biens que le débiteur a acquis par la suite, ils sont engagés vis-à-vis de deux personnes. En effet, ils sont engagés vis-à-vis du créancier, mais aussi vis-à-vis de l'acheteur pour garantir son achat. Puisque c'est ainsi, le créancier ne devrait pouvoir saisir que la moitié de la valeur de ses améliorations. Et à son tour, l'acheteur ne devrait réclamer que la moitié de la contre-valeur de ses améliorations, puisqu'il n'aura perdu que la moitié. Akma répond, Maï Govenami de Katane, Qu'est-ce qu'a voulu dire la Braïta lorsqu'elle dit que l'acheteur encaisse la contre-valeur des améliorations qu'il a portées au terrain? Chatzi shvach, en fait, la Braïta a voulu dire qu'il ne peut encaisser que la moitié des améliorations apportées au terrain. Parce qu'en fait, comme nous l'avons expliqué, le créancier n'aura saisi que la moitié des améliorations apportées au terrain. Nous avons fini ici le shiur de Baba Batra Daf Kuf Nun Zayin.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Ayomi quotidiennement en vidéo.